Bonsoir à tous. Donc le thème est déjà affiché. C'est David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors c'est une expression biblique.
Bonsoir.
Que je vous ai mis ici dans ma version d'enfance, c'est-à-dire la version second. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, qui est donc 1 Samuel 13. Le verset 14. Et c'est une expression qui, peut-être pour vous aussi en tout cas, elle est chère à mon cœur depuis que je lis la Bible. Et c'est pour ça que je cite cette version-là, tout particulièrement. Et pourquoi ? Mais parce que c'est une parole qui m'interpelle, qui me met au défi, et aussi qui me rassure. Parce que aussi c'est mon désir d'être un tel homme. Et aussi parce que Dieu nous révèle ici ce qui est important pour lui. Il nous révèle ce qu'il veut, ce qui compte pour lui. Et voilà, donc je vous propose ce soir de passer notre heure ensemble à un peu considérer cette expression, cette parole. Et tout d'abord, les endroits où nous trouvons, l'endroit où nous trouvons cette parole, et aussi les deux autres endroits où elle est citée. Donc l'endroit où nous la trouvons, je l'ai déjà dit, c'est 1 Samuel 13, verset 14. Le Seigneur a cherché un homme selon son cœur et l'a institué chef de son peuple. Ensuite, je prends le psaume 89. On va lire dans un instant un passage plus conséquent. Et le psaume 89, il a été écrit par rapport à 2 Samuel 7, que nous avons relu la semaine dernière à l'étude biblique du mois passé et à la prédication du mois passé sans doute aussi. D'accord ? Et ce psaume, en fait, reprend l'alliance que Dieu avait fait avec David. Et là aussi, on voit au verset 21, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Et dans le Nouveau Testament, en acte 13, verset 22, on a cette parole qui dit « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Et cette expression, elle est en italique dans ma Bible pour dire que c'est une citation. Mais en fait, c'est une citation du début de 1 Samuel 13 et un résumé du psaume 89, parce qu'on ne trouve pas ça mot à mot. Mais c'est en quelque sorte le message du psaume 89. Je l'ai établi pour toujours. Et voilà. Et enfin, ce n'est pas directement cité ici, mais il y a aussi un passage important, c'est 1 Samuel 16, qui est l'onction de David. Et dans le verset 1, il est écrit « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc là, on a le vocabulaire qui va autour de cette expression. Et donc, en pensant à celle-ci, mon attention s'est portée donc sur la recherche, le choix, le désir de Dieu. Et j'arrive pas à me défaire. L'autre fois, je parlais du retour du roi. J'ai pas trouvé d'autre titre qu'aujourd'hui de parler de la quête du vrai roi. Dans 1 Samuel 13 au verset 14, c'est donc la citation, nous lisons ici le contexte. D'accord ? Donc déjà juste pour le vocabulaire selon les versions, j'avais lu tout à l'heure, le Seigneur a cherché un homme selon son cœur et l'a institué chef de son peuple. Ou encore, la version second, on l'a vu, la Français courant nous dit, le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir. Voilà donc d'autres façons d'exprimer, c'est de traduire ce qui est dit ici. Alors si on regarde le contexte, on voit que 1 Samuel 13, c'est la désobéissance de Saül. Il n'a pas pu attendre que Samuel vienne, il a offert le sacrifice, il a eu peur. Et on a donc ces paroles très, très dures, très difficiles. Samuel, donc le prophète, parle à Saül et lui dit « Tu agis comme un insensé, tu n'as pas observé le commandement du Seigneur ton Dieu, ce qu'il t'a ordonné. Autrement, le Seigneur aurait établi ta royauté sur Israël pour toujours. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur a cherché un homme selon son cœur et l'a institué chef de son peuple, puisque tu n'as pas observé ce que t'avait ordonné le Seigneur. Alors, ce que j'aimerais vraiment souligner ici, c'est que c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de donner un roi à Israël pour toujours. D'accord ? Nous sommes mortels, Saül était mortel, David était mortel, mais dans le vocabulaire du Seigneur, ça a beaucoup de valeur de dire « je mets un roi pour toujours ». D'accord ? On le voit ça, enfin on le voit pas, mais dans les temps anciens, on disait toujours que le roi vive à jamais, mais c'était un vœu d'homme pour honorer le roi. D'accord ? Mais ici, c'est du côté de Dieu qui parle. Donc voilà ce que Dieu veut, ce qu'il a sur le cœur, c'est de donner un roi pour toujours. C'est pour ça qu'il y a ce titre ici, dont je vais parler dans un instant. Donc, on voit le but de Dieu. Et la vie de David, dont le récit est développé longuement dans les livres de 1 Samuel 16 à 31, mais aussi de tout le livre de 2 Samuel, de 1 Roi 1 et 2, de 2 Chroniques 11 à 29, ça fait un total de 59 chapitres dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait déjà relevé ici, mais le récit de David, c'est le plus long récit d'une personne décrite dans la Bible, et même en dehors de la Bible, d'accord ? Dans l'Antiquité, on n'a pas parlé aussi longuement ou dans le détail d'aucune autre personne dans aucun écrit. Donc 59 chapitres, c'est pas rien. Et si on pense encore que David, il a aussi écrit de nombreux psaumes, même il en est aussi un peu responsable du livre des psaumes, on parle du trésor de David, selon Spurgeon. Et même là-dedans, donc, on va pouvoir découvrir son cœur, qui il est, à travers ses prières, que très souvent nous faisons aussi nôtres. Sans compter que d'autres psaumes parlent de lui, alors qu'il ne les a pas écrits, dont le psaume 89, qu'on va voir dans un instant. Donc, le récit de la vie de David, si je devais essayer de le dire en un mot, c'est ce titre-là. C'est la quête du vrai roi. Et tout commence au début du livre de Samuel, de 1 Samuel, pardon. C'est le récit de ce qui se passe pour Anna, au chapitre 1, qui prie Dieu et Dieu l'exauce. Et on n'a pas le temps de lire, donc je l'évoque juste. Mais au chapitre 2, on a son cantique. Et dans ce cantique, en fait, c'est une vision qu'elle a, une révélation, suite à ce qu'elle a vécu avec le Seigneur et aussi le don qu'elle fait de son fils Samuel à l'Éternel, sa consécration. Elle parle, elle, d'un vrai roi qui n'accumule pas le pouvoir, mais qui le distribue. Un vrai roi qui retire le malheureux des cendres pour qu'il siège avec les princes. Un roi qui travaille pour la justice, c'est-à-dire un roi qui vit pour servir le peuple et non pour s'en servir pour lui. Et ce que je dis là, en fait, parfois on l'oublie, mais c'est dans le cœur de tout le monde. C'est ce qu'on désire. Il nous faut réaliser que la quête du vrai roi est celle du désir de justice sur la terre, le désir d'une société qui est faite de personnes qui ont développé ce caractère dont parle le cantique d'Anne et que le Seigneur attend aussi, qu'il voit en nous, qu'il veut voir en nous. Et c'est donc aussi ce que nous désirons de tout notre cœur. Et combien de fois on a aussi prié Dieu pour qu'il fasse justice dans ce qui est trop injuste, dans ce que nous pouvons vivre ou que d'autres peuvent vivre. Voilà, c'est donc quelque chose dont notre monde a besoin plus que jamais, et ce cantique de Anne l'exprime bien. Et donc Samuel, son fils, il a reçu certainement cette vision de sa mère, du vrai roi. Donc vous voyez, c'est un peu raccourci, le vrai roi, c'est un roi qui aime son peuple, d'accord ? C'est C'est inhabituel dans notre conception, mais on le comprend très bien. Je veux dire, c'est ce qu'on souhaite. C'est comme ça que je le définis. Donc, Samuel a été conduit à oindre Saül pour roi, suite au fait que le peuple avait demandé, exigé un roi comme tous les autres peuples aux alentours. Il voulait être, comme tous les autres peuples, gouverné par un roi. Et vous vous souvenez, Samuel n'était pas très content de cette idée, mais Dieu a dit, ok, il leur a donné Saül. Saül, un homme qui a plu au peuple. Il était grand, il était fort en taille, il avait une belle apparence, il était capable, mais nous l'avons déjà lu, il a désobéi à Dieu et il nous est dit que Dieu l'a rejeté. Il s'est donc avéré ne pas être ce vrai roi, parce qu'il était comme les autres, il le prouve par la suite, qui vivent non pas pour servir, mais pour accroître son pouvoir. C'est ainsi qu'on arrive au chapitre 16, à l'onction. Le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül ? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. » Et on a là Samuel qui pleure de manière inconsolable, il mène le deuil à l'idée que Saül ne soit pas ce roi. Mais Dieu le reprend et lui donne donc une nouvelle mission. « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars, je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Et justement, je vous propose de lire quelques versets. Quelques versets, ça va être beaucoup de versets, mais c'est que quelques versets, parce que le psaume en contient, je crois, plus de 50. Donc, même si j'en lis 10, ça sera que quelques versets. Donc, j'ai cité tout à l'heure le verset 21, qui est sous vos yeux. Et donc, je vais lire le tout, et il faut essayer de le rattacher à ce que nous avons lu dans 2 Samuel 7, où Dieu a dit, c'est moi qui te bâtirai un temple, enfin, et te donnerai donc une descendance qui régnera pour toujours. Alors allons-y, lisons-le. Alors, attendez voir, j'ai pas oublié quelque chose. Ah. Je voulais encore vous lire deux autres versets, je vais les lire, vous pouvez les écouter. Psaume 89, versets 4 et 5. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. En quelque sorte, il y a déjà le résumé au début du psaume. Et donc, vous avez bien entendu cette parole. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. David, mon serviteur. Et maintenant, lisons à partir du verset 20. Autrefois, tu as parlé à tes amis dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre, le traître ne pourra le renverser. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ses agresseurs. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leurs fautes en les frappant et je châtirai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles. Je l'ai juré une fois sur ma sainteté, non, je ne mentirai pas à David. Sa dynastie sans fin subsistera et son trône comme le soleil en ma présence, comme la lune établie pour toujours, fidèle témoin là-haut. » Voilà ce que Dieu dit de cette alliance qu'il a faite avec David. Et vous voyez, ça ne manque pas de détails. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer la deuxième partie. Mais je reviens au début, j'ai souligné quelques mots. Au verset 2, que je vous ai lu tout à l'heure, Dieu appelle David son élu. Et moi, quand je lis cette phrase, alors le verset 2, c'était « Avec mon élu, c'est le verset 4, pardon, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur. » Pour moi, c'est comme s'il appelait David par son nom. David, ça veut dire « bien-aimé ». Mon bien-aimé, c'est le sens du mot. Et Dieu appelle David son élu. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, parce que je vais vous citer un autre verset dans le Nouveau Testament. Le mot élu, j'y reviendrai, c'est parfois un peu difficile à cause de toute l'idée de l'élection, ou du moins de la prédestination, qui parfois, quand on lit, c'est un peu difficile, pour moi en tout cas. D'accord ? Mais ce soir, je vous propose d'utiliser le mot choisi, d'une part, et d'autre part, dans toutes mes réflexions, pour moi, c'est avant tout, c'est proche du mot aimer, le mot choisi. Dans la plupart des textes que nous lisons, c'est très très proche, à mon sens. D'accord ? Que Dieu choisit, c'est pour nous garantir de son amour. On verra avec les autres textes qu'on va lire. Donc, au verset 20 et 21, ceux-là par contre sont sous nos yeux, on voit donc que Dieu présente David. Il dit que c'est un homme d'élite, il dit que c'est un jeune homme, et il dit aussi que c'est mon serviteur. Et qu'est-ce qu'il fait pour lui ? J'ai donné mon appui, j'ai choisi, j'ai trouvé. Voilà, par rapport au choix de Dieu. Il utilise, voilà, je répète un peu le vocabulaire. Et au verset 22, on voit tout ce que Dieu fait pour lui. Je l'ai sacré de mon huile sainte. Et on voit ça dans, on lira le texte tout à l'heure, dans 1 Samuel 16, lorsque Samuel oint David, il est dit que l'Esprit du Seigneur s'empara de lui depuis ce jour. C'est quelque chose de très fort, et David en avait absolument besoin. Nous qui avons lu le reste de sa vie également, nous savons que, comme nous, c'est un homme pécheur, et qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans être né de nouveau, sans être transformé et secouru par le Saint-Esprit pour marcher avec lui. Et par l'onction, le Saint-Esprit est venu et s'est emparé de lui depuis ce jour. C'est quelque chose de très fort. Voilà, et puis donc Dieu lui assure aussi, ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. C'est fantastique, parce que peu après avoir été ouin, il affronte Goliath. Et au verset 27, ça transforme David. Il est dit, il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. C'est le sauveur. Dieu est le sauveur de David et dans une relation très intime, très proche. Tu es mon père, tu es mon protecteur, etc. Et le verset 28, il y a la réponse de Dieu. Dieu en fait son fils. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Et David, pour moi, dans ce passage, il devient, ou c'est, un type de Jésus. Et c'est aussi, du coup, un type pour nous, un modèle pour nous. En fait, tout ça, ça nous parle à nous aussi. Et en lisant pour moi ce psaume 89, il y a plein de choses qui sont liées à des choses éternelles, à des choses qui ne sont pas temporelles, qui me font directement aller vers Jésus, directement, dans ces paroles que nous avons lues, dans ce psaume 89. Ça s'applique bien sûr à David, mais ça s'applique beaucoup mieux encore au Seigneur Jésus, qui, lui, est ce roi qui est préparé par David. Alors, est-ce que j'ai ce texte ? Alors, il y a encore un texte que j'ai pas sous les yeux, mais on peut le remettre ici au début. C'est la citation, donc, dans Acte 13. C'est le résumé de tout ça. En fait, Acte 13, c'est tout simplement une citation. Y a Paul qui est à Antioche de Pisidie, et puis il fait un discours à la synagogue. Et au verset... voilà ce qu'il est dit. « Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme, selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus. » Voilà donc la parole qui nous explique tout, si jamais on n'avait pas pu vraiment le saisir. Là, c'est clair, net, Paul le dit avec ces mots, donc en citant les passages que nous venons de lire. D'accord ? En les mettant dans une seule phrase. Voilà donc, c'est quelques versets. Pour la base. Personne n'ose rien dire. Hein. Vous ne savez pas ce que je dirais à mes étudiants.
C'est peut-être autorisé.
Hein?
C'est peut-être autorisé.
Bah, essaye, en cours. Non, c'est pas autorisé. Bah, ici non plus. Donc, le choix de Dieu. 1 Samuel 16. Je vous propose de regarder ce texte, parce que c'est là où Dieu envoie Samuel faire l'onction, choisir David. Et donc, dans le premier verset que vous avez sous les yeux, je veux d'abord souligner ce qui est écrit là. « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » C'est à la fin du verset, d'accord ? J'ai vu parmi ses fils mon roi, ou celui que je désire pour roi. Et littéralement, ça veut dire je me suis vu un roi. C'est le Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas. Et tout ce passage, il est basé sur l'idée, sur la notion de regarder et de voir, puisque si on passe au verset 6 et 7, alors je ne sais pas si je les ai, oui je les ai là, si on regarde les versets 6 et 7, lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, donc c'est le fils aîné, il se dit, le fils de Jessé, tous les fils viennent se présenter, enfin tous les fils, les sept premiers, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Voilà. C'est Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et je dirais même le souci que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'homme, enfin, au sens générique cette fois-ci, les femmes sont incluses aussi, ne voit que les apparences. Ne regarde pas là où il faut. J'ai lu qu'une des comparaisons possibles ici, c'est un peu comme quand il y a un magicien qui fait un tour, il nous aide toujours à regarder là où il ne faut pas pour que lui puisse faire son truc. C'est le même principe pour le pickpocket, d'accord ? C'est qu'il fait quelque chose pour détourner votre attention, pour qu'il puisse, lui, vous dérober. Et par rapport à ce problème de l'apparence qui semble pas du passé, d'accord ? Parce que pour Samuel, c'était il y a des milliers d'années, on aurait peut-être pu... et on l'a déjà lu nous-mêmes plusieurs fois. Et pourtant, on a toujours ce souci de juger sur l'apparence ou de regarder à l'apparence. Donc c'est pas difficile de vous rappeler que c'est un problème pour nous tous, ça reste un problème pour nous tous, mais vous savez quoi, c'est infiniment pire aujourd'hui que pour l'époque de Samuel et pour l'époque du siècle dernier. Nous sommes la société je sais pas si on est au sommet des jugements sur les apparences ou de l'importance de l'apparence, mais je pense qu'à cet instant on l'est. Et pourquoi ? Alors je donne seulement une raison pourquoi c'est si fort aujourd'hui. Ben c'est grâce à la technologie. Vous vous rendez compte ? La technologie, c'est toute ma vie professionnelle. Je suis en train de dire quelque chose de négatif. En fait, c'est la tyrannie de l'image. Aujourd'hui, l'image, ce que nous voyons, est tellement important par rapport à ce que nous pouvons lire, puisque nous ne lisons plus, justement. Et je vous raconte un professeur d'université qui s'appelle Postman, qui a écrit dans un bouquin des années 80, donc il y a 40 ans, il a dit, il parle de Abraham Lincoln et de Stephen Douglas, qui étaient tous les deux candidats à la présidence à l'époque. Bien sûr, le deuxième nom, vous ne le connaissez pas, moi non plus, mais il n'a pas été élu. Voilà. Ils étaient en campagne pour la présidence en 1858. Vous allez dire, c'est très très vieux. Mais ça ne fait rien, ça donne quand même l'idée. Et donc, ils ont débattu ensemble de nombreuses fois, et la transcription de leur débat a chaque fois été publiée par tous les journaux. Systématiquement, donc c'était presque des débats quotidiens, et tout a été publié. Et l'auteur nous fait remarquer que si ces deux personnages très importants, très connus à l'époque, si Lincoln et Douglas marchaient dans la rue principale de n'importe quelle ville du pays, au maximum 4 à 5% des personnes pourraient les reconnaître, seraient capables de les reconnaître. Pourquoi ? C'est pas parce que la photographie n'a pas encore été inventée, mais c'est parce qu'on n'avait pas encore des services de transmission des photographies comme aujourd'hui, bien sûr. Voilà, donc on ne les voyait pas. Et donc, vous êtes là aujourd'hui, vous dites, mais comment ils ont fait pour se décider, pour qui voter ? Alors que, de nos jours, on se pose ce genre de questions. Nos enfants ou petits-enfants nous disent « Mais comment vous avez pu vivre sans Internet ?» En fait, avant, comment est-ce qu'ils faisaient pour se positionner, pour choisir leur président ? Ben, ils lisaient les journaux et ils comparaient les idées des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous vivons dans une ère totalement différente à cause des photos, à cause des images. Il y en a partout. Maintenant, ces images deviennent des vidéos. Et elles sont tellement plus puissante pour transmettre un message. Ça vous dit peut-être rien, mais Instagram a pris le dessus sur Facebook parce que envoyer une photo, ça parle plus qu'un message, ou que de lire ou d'envoyer un texte. Mais l'inconvénient, c'est que notre monde aujourd'hui est dominé par les images et non par les idées. Et si on prenait n'importe quel sujet d'actualité, alors c'est pas un sujet d'actualité, mais les élections, par exemple, puisqu'on parlait de Lincoln et des élections, aujourd'hui, elles sont davantage déterminées par des impressions, par des sentiments, plus que la pensée, plus que par les idées. Et c'est lié à l'apparence des personnes. Et à cause de la publicité, nous sommes saturés d'images de partout. Et nous-mêmes, nous n'arrivons pas à ne pas nous comparer à ce que nous voyons, à ne pas être influencés. Donc voilà juste un point, un aspect pour nous rappeler à quel point nous avons ce problème de instinctivement juger à l'apparence. Et parfois c'est plus grave parce qu'on oublie de se le rappeler que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc le Seigneur nous aide à aussi nous le rappeler tous les jours. Donc il y a ça. Si on revient au texte, c'est pas le premier, d'accord ? C'est pas Eliab. Alors pourquoi il a pensé à lui, Samuel ? Mais parce que c'est les valeurs de son époque, être grand physiquement, avoir une tête de plus ou deux de plus que les autres, les gens étaient globalement plus petits, alors donc avoir des géants, ben en tant qu'homme de guerre, c'était extrêmement efficace. Les rois étaient des hommes de guerre parce qu'ils ils étaient imbattables par rapport aux autres. Donc, et c'était le canon de l'époque, être fort, avoir ses qualités. Et donc Samuel a vu ça. Après Saül, c'était déjà Saül, après il a vu Eliab de cette façon. Donc il y a l'apparence... et aussi les autres qualités, les talents naturels. Voilà, et donc, on lui présente, à Samuel, on lui présente les fils suivants, et chaque fois, Dieu dit, je l'ai rejeté, je ne le choisis pas. Et Samuel était sûr, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, ah non, c'est le troisième, etc. Mais il passe en revue les sept fils, et il ne se passe rien. Et donc, vous voyez... voilà. Et donc Samuel dit à Jessé, tu n'en as pas d'autres, c'est vraiment tout. Et il répond, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Et j'ai découvert que ce mot, le mot utilisé pour dire le plus jeune, est connoté très négativement, très très négativement. Alors bien sûr, j'ai lu ça en anglais, et donc il y a une expression pour dire, en anglais il y a une expression qui dit « c'est le plus petit et le plus faible animal du troupeau, un mal nourri ou un qui a un défaut génétique, ou encore si c'est appliqué à une personne, c'est une personne de très petite taille qui ne s'est pas développée ». En gros, le mot c'est « nabo ». C'est le nabo, voilà. Il est extrêmement petit, enfin, la traduction de ce mot. Donc il y a quelque chose de très fort. Son père, le méprise. C'est le huitième fils. Il y avait déjà le chiffre parfait. Il est de trop, en fait. Il ne compte pas. Il n'était pas là. Et là, je vais citer un théologien spécialiste de l'hébreu qui a écrit sur ce passage, Robert Alter. Il dit que David, c'est une sorte de cendrillon masculin, relégué aux tâches domestiques au lieu d'être invité à la fête. Mais si on regarde autrement, le fait de prendre soin de ses troupeaux, tâche à laquelle il a été banni, ça lui a appris tout ce dont il avait besoin pour vaincre Goliath dans la bataille, et ensuite pour diriger son peuple. Et ce récit de David, donc là je cite, ou je résume l'idée de ce commentateur biblique, il dit « Ce récit de David suit le thème de l'inversion de l'ordre établi qui est répété dans le livre de la Genèse. je m'explique. David n'est pas l'aîné, il n'est même pas le septième fils, c'est le huitième enfant, et en pratique, il n'est même pas là. Et Robert Alter dit ceci, un des thèmes principaux de la Bible, c'est le renversement des valeurs de ce monde. Donc cet homme est un expert de la Genèse, et il souligne le renversement de l'ordre, ce qu'on appelle le premier-né. La règle pour le premier-né, c'était la suivante, le fils aîné recevait tout l'argent, toutes les propriétés, tous les biens. C'était vraiment, il était premier, il recevait tout. Et Robert Alter dit, partout dans la Bible, lorsque Dieu agit, lorsqu'il sauve, lorsqu'il intervient, il le fait toujours délibérément en inversant l'ordre établi par les hommes. Regardons le livre de la Genèse. Dieu choisit Abel devant Caïn, Isaac devant Ismaël, Jacob et non Ésaü, Moïse et non Aaron. Vous n'avez que 3 ans de différence, je crois. Dans un autre registre, il choisit la stérile Sarah et non la fertile Agar. Il choisit Léa, la non aimée, la non désirée, et non pas la belle Rachel, pour apporter son salut dans le monde. Voilà ce que Dieu fait. Il inverse les choses établies, les choses qui sont comme ça pour les hommes, il les inverse. Et il choisit toujours celui ou celui dont personne ne veut. Il choisit toujours le fils que tout le monde a oublié. Et il ne fait pas ça malgré la faiblesse de ces personnes. La personne que Dieu choisit, c'est toujours un outsider. Celui qui est en dehors de l'ordre établi par les hommes, quelqu'un qui n'est pas apprécié par le monde, quelqu'un que le monde méprise. Dieu choisit ce type de personne. Et il le fait donc délibérément, à cause de leur faiblesse aux yeux des hommes. Donc voilà, c'est la position de ce théologien, c'est son idée. Et donc maintenant, un mot, on l'a déjà dit sur le dernier verset, l'onction. Je l'ai déjà dit, je le répète simplement. Lorsque Samuel prend la corne pleine d'huile et donne l'onction à David, voilà ce qui se passe. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Et ça, c'est très important. Dieu n'a pas choisi David parce qu'il avait un caractère formé, qu'il était parfait. Il l'a choisi et il lui donne son esprit parce que sans son esprit, il ne pouvait pas être transformé de l'intérieur, devenir l'homme de Dieu qu'il est devenu, l'homme que Dieu aime, que Dieu a déjà aimé, mais qui va continuer à aimer et à agir. Voilà, donc vraiment l'importance de l'Esprit de Dieu pour devenir l'homme de Dieu. Et voilà pour ce que j'ai projeté. Et j'aimerais maintenant... On
peut peut-être arrêter ça.
J'aimerais parler un peu de Jésus. On a vu que quand Dieu appelle David son élu, j'ai dit c'est un peu comme s'il l'appelait mon bien-aimé. En fait, c'est ainsi que Dieu appelle son fils. Les paroles que Dieu applique à David, dans celles qu'on a lues, beaucoup s'appliquent encore beaucoup mieux à Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens que David nous conduit au Christ, nous fait regarder à lui, car les paroles prononcées sur lui le dépassent de beaucoup et ont leur sens vraiment en Christ. Et la voix qui est sortie du ciel, après la, sur le mont de la transfiguration, que dit-elle ? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ouais. Alors, dans Luc, c'est vrai, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 35, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Voilà. Donc, c'est une variante selon les évangiles. Et c'est pour ça que je le rapproche, en fait, de bien-aimé. C'est le fils que j'ai choisi, que j'ai aimé. J'ai voulu l'avoir. Voilà l'idée de ce choix. Et c'est incroyable de voir à quel point le mot choisi est utilisé partout dans la Bible et dans le Nouveau Testament également, et pour le Seigneur Jésus, bien sûr. Matthieu 12, verset 18, qui est tout simplement la citation de Ésaïe 42, verset 1, c'est le début du premier chant du serviteur. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Et là, c'est pour le Seigneur Jésus. D'accord ? C'est en Matthieu 12, il y a quatre versets qui sont cités là. On connaît bien le passage de Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. » Et en 1 Pierre 2, il est dit « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Voilà. Et là, c'est une citation du psaume 118, verset 22. « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Donc voilà ce qui est dit de Jésus. Et Jésus lui-même, comment il répond à tout ça? Bon, nous lisons soit dans le psaume 40, soit dans Hébreux 10, qui est une citation du psaume 40. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Seigneur Jésus a choisi de répondre au choix de son Père et il s'est engagé volontairement à venir sur terre, à se délester de tout, à se vider de tout. C'est une façon d'utiliser le Philippiens 2, de citer Philippiens 2, pour venir pour nous. Et j'en viens donc à... Je me rapproche de nous, parce que c'est aussi la grande question. J'ai cité 1 Pierre 2. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. » Et un tout petit peu plus loin, verset 5, il va dire « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, etc. » Et au verset 9, « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et enfin, dernière citation de ce type qui est fantastique, Ésaïe 43. Tout le chapitre est merveilleux, mais le verset 10 nous dit ceci, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Alors, je vous l'ai lu dans la version qui interprète un peu, mais je l'ai lu au moins dans 10 versions, elles disent presque tous la même chose. Elles disent ceci, « Vous êtes mes témoins, vous êtes mon serviteur. » D'accord ? C'est un pluriel pour un « Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi pour que vous sachiez que vous croyez en moi et compreniez que moi, je suis. » Voilà. Et cette parole, il faut la, vraiment la, la prendre à cœur, parce que c'est... il nous dit pourquoi il nous a choisis. C'est pour qu'on ait cette garantie, pour qu'on sache qui il est, pour que vous croyiez en moi et compreniez que moi, je suis. On a l'impression que c'est Jésus qui parle là, mais c'est Dieu qui parle lui-même dans ce passage. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, cette parole s'applique à David, elle s'applique à Jésus, elle s'applique à nous. D'accord ? Et il nous a choisis, il a choisi Jésus, mais il nous a choisis pour que nous sachions et pour que nous croyions et comprenions que moi, je suis. C'est le fameux « je suis » aussi. Donc, on a ça dans Ésaïe 43, verset 10. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Savoir que Dieu nous a choisis, c'est simplement important pour nous rassurer, pour qu'on continue. Le texte de Luc 10 avec Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part. Pour moi, ce verset, il a accompagné toutes mes études, parce que quand tu es devant l'épreuve, tu peux dire « Seigneur, aide-moi ». Mais pour ça, il aurait fallu réviser avant, d'accord ? Ce qu'il faut faire. Mais quand tu es devant l'épreuve, tu te rappelles que « Seigneur, je suis là avec toi ». Et je vais être comme Marie, je veux choisir ce qui est important. Et pour moi, c'est un peu similaire à ce qui est dit là. Le fait que Dieu me dise, je t'ai choisi, du coup, j'y vais, quoi. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est que je peux faire des choses qui me feraient peur sinon. Voilà donc l'importance de ce mot, de cette. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement répété. Et donc voilà pourquoi je l'associe au fait de dire que Dieu nous aime. Et d'accord, il nous dit, je t'ai choisi, tu peux y aller. Je vois qui tu es. Et je te veux tel que tu es, entièrement. Donc voilà un peu comment je comprends ce passage. Je résume. C'est impossible de résumer. Mais je dis encore un mot. Dieu t'a choisi. C'est pas pour ta belle apparence physique qui n'est pas permanente. Et nous le mesurons petit à petit. Je t'ai choisi pas pour ton talent, et tu en as beaucoup. Et c'est moi, le Seigneur, qui te l'ai donné. Je t'ai choisi pas pour les bonnes œuvres. Aucun effort n'a de sens, ne peut déterminer ce choix. Ni même ta vie exemplaire aux yeux des hommes. La seule chose que Dieu veut, c'est notre cœur, c'est-à-dire tout notre être intérieur. Et ceci venant de notre volonté, de notre choix libre. Pourquoi ? Parce que il veut venir former notre caractère spirituel. Il veut faire de nous une personne spirituelle par la force de son Saint-Esprit qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'il attend de nous ? En fait, c'est tout simplement qu'on lui dise oui. Et si je reviens maintenant à David, j'ai peut-être pas rempli le cahier des charges de ce que je devais dire pour ce soir pour les groupes de maison. Mais voilà ce que peut-être j'aurais dû dire en pensant à David. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'il a répondu oui à l'appel de Dieu. Tout simplement. Et il s'est laissé modeler par Dieu pour devenir un homme de Dieu. Pas par ses exploits, mais par la personne qu'il est devenu. ce type de Christ qui aujourd'hui nous permet, nous aide à découvrir tout plein de choses que Dieu a fait dans sa vie et qui nous inspire pour nous aussi le suivre. Voilà donc l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une expression pour moi merveilleuse que j'aime depuis toujours parce qu'elle nous dit ce qui est important pour Dieu. C'est notre être intérieur qui est aimé par Dieu. Dieu voit notre beauté intérieure. Et c'est dit pour David, mais aussi pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous qui prenons cette parole à cœur, qui la prenons au mot. Dieu m'aime pour moi-même, pour que mon cœur réponde à son amour. Nous existons, nous sommes venus à la vie par la volonté de Dieu, par son choix d'amour de nous créer pour que nous participions à sa joie qu'il a d'aimer son Fils. Nous aussi, on peut partager. Il veut que nous le connaissions, que nous lui donnions gloire, que nous dansions avec lui. Je vous invite à prier. Je vais juste traduire le petit refrain que j'ai sous les yeux. Oui, Seigneur, oui. Je dis oui, Seigneur, oui. À ta volonté et à tes voies, je dis oui, Seigneur, oui. Je te fais confiance et je veux t'obéir. Quand ton esprit me parle, de tout mon cœur, je suis d'accord. Et ma réponse sera oui, Seigneur, oui. Amen.